Chers frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont données de la part de l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel qui nous appelle, l'Éternel qui nous rassemble, l'Éternel qui nous unit et fait de nous un seul peuple, son peuple. Frères et sœurs, levons-nous pour chanter Dieu avec la première strophe du cantique 245. Au cantique 245, nous chantons pour l'instant la première strophe. Gloire à toi, Seigneur, toi qui fais naître le jour et qui donne sens à chaque instant de notre vie. Gloire à toi qui nous appelle à vivre précisément, à exister, et qui toujours, sans cesse, nous fait confiance. Toi qui inlassablement nous attire vers l'avenir. Gloire à toi pour les signes de ta présence bienveillante parmi nous. Gloire à toi pour le pain partagé, pour l'amitié tissée, pour la paix donnée et accueillie, pour l'amour incarné. Gloire à toi qui nous permet d'espérer même au milieu de la nuit la plus sombre. Toi qui nous invites à oser dire que la vie est plus forte que la mort et qu'après la nuit, la lumière va jaillir à nouveau. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, c'est au psaume 118 que je vous invite à chanter les strophes 1, 2 et 4 pour prolonger notre louange au psaume 118, strophes 1, 2 et 4. place, frères et sœurs. Éternel, toi qui nous accompagnes par ce que la Bible nomme l'Esprit, toi qui nous attires par ta parole, toi qui es parole de vie, nous reconnaissons que nous ne sommes pas à la hauteur de cette parole et nous ne nous ouvrons pas véritablement à la puissance de l'Esprit. Notre péché est de nous tenir à distance de toi, fermés à ta parole, en obéissant à d'autres voix que la tienne. Et c'est pourquoi nous nous tenons devant toi avec humilité. Pour que notre cœur se remplisse de ton esprit, afin que ta présence apaise nos tourments et renouvelle notre existence. Notre péché, c'est de créer la division entre les hommes. Nous savons que certains de nos actes ont pu léser quelques-uns. Nous savons que nos paroles ont pu parfois faire mal. Nous savons que parfois nous nous sommes cachés derrière le silence. Et c'est pourquoi nous nous tenons devant toi, pour transcender toutes ces situations. Notre péché, c'est finalement de nous déchirer nous-mêmes. De nous tenir à distance de cette terre promise vers laquelle tu nous attires. De nous tenir à distance de celui que tu indiques comme un frère ou comme une sœur. Et c'est pourquoi nous te demandons d'avoir pitié de notre faiblesse, de notre infidélité, de notre incohérence. Seigneur, reste avec nous, car le jour décline dans notre vie. Et transforme-nous. Fais resplendir notre quotidien à la lumière de ton évangile. Amen. Frères et sœurs, au cantique 245, chantons la quatrième strophe en restant assis. Frères et sœurs, en réponse à notre prière, souvenons-nous de l'oracle qui retentit dans le livre du prophète Ésaïe, cet oracle qui nous rappelle que lorsque les montagnes s'effondreraient, lorsque les collines chancelleraient, l'amour de Dieu pour nous ne faiblira point, et son alliance de paix ne sera pas ébranlée, car il nous aime d'un amour éternel, et il nous garde sa miséricorde. Voilà, frères et sœurs, des paroles que nous pouvons accueillir. Et nous pouvons les accueillir par notre chant et nous lever en chantant la troisième strophe du cantique 245. En vous levant pour chanter ce cantique, vous avez mis en œuvre le verbe « koum » en hébreu, « se lever », qui est aussi un verbe qui donnera la résurrection. Être debout, c'est être ressuscité. Et dans l'Épître aux Colossiens, nous entendons ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Dépouillez-vous du vieil homme et de ses œuvres, et revêtez l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui grâce à Dieu le Père. Frères et sœurs, faisons nôtres ces paroles par le chant du cantique 427. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique 427. Éternel, que ta parole parle à notre être, et pour cela qu'elle retentisse à travers les mots que nous allons lire, qu'elle nous fasse comprendre la vie à laquelle tu nous appelles. Amen. Frères et sœurs, deux raisons essentielles m'ont motivé à choisir le texte que je vais vous lire. Tout d'abord, je me disais que cela faisait longtemps que vous n'aviez rien lu, rien entendu de ma part, de la part de Samuel. Donc, une petite plongée dans le premier livre de Samuel. Et puis, le début du mois d'octobre est toujours l'occasion d'une plongée assez funèbre avec le jour des morts, avec Halloween. Et je me suis dit qu'il serait bon d'entendre quelques paroles bibliques à ce sujet. Avec un texte passablement étonnant, puisque dans le premier livre de Samuel, je vais vous lire au chapitre 28, des versets 3 et suivants. Qu'est-ce donc le chapitre 28 ? Eh bien, nous y apprenons que Samuel était mort, le prophète Samuel était mort. Tout Israël lui avait fait des funérailles, et on l'avait enseveli à Rama dans sa ville. Saül, le roi, avait éliminé du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins, ce sont les ennemis d'Israël à l'époque, les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit pas. Ni par des songes, ni par l'ourim, une façon de jeter le sort pour prédire l'avenir, ni par les prophètes. Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai l'interroger. » Ses serviteurs lui dirent, « À Ein Dor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors, Saül se déguisa, il prit d'autres vêtements et partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Pratique la divination pour moi en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui dit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. » Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ? Saül lui fit un serment sur l'Éternel en lui disant « L'Éternel est vivant, la faute dans cette affaire ne retombera pas sur toi. » La femme dit « Qui veux-tu que je fasse monter ? » Et il répondit « Fais monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé ? Tu es Saül !» Le roi lui dit, « Sois sans crainte, mais que vois-tu ? » La femme dit à Saül, « Je vois un être divin qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle apparence a-t-il ? » Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. » Saül reconnut que c'était Samuel, et il s'inclina, le visage contre terre, et il se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter de la terre ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est écarté de moi. Il ne m'a répondu ni par l'intermédiaire des prophètes, ni par des songes. et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est écarté de toi et qu'il est devenu ton adversaire ?» L'Éternel a pris ses dispositions, comme je te l'ai dit, par mon intermédiaire. L'Éternel a déchiré la royauté entre tes mains et l'a donnée à l'un de tes proches, à David. Puisque tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel et que tu n'as pas infligé l'ardeur de sa colère à Amalek, l'Éternel t'inflige aujourd'hui ceci. Et même, l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre, de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül et, le voyant tout épouvanté, elle lui dit « Voici que ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en écoutant les paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant toi aussi la voix de ta servante et laisse-moi te servir un morceau de pain, afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. » Mais il refusa. Il dit, « Je ne mangerai pas. » Ses serviteurs et la femme insistèrent auprès de lui, et il écouta leur voix. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de sacrifier. Elle prit de la farine, la pétrit et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs, et ils mangèrent. Puis ils se levèrent et partirent la nuit même. Frères et sœurs, chantons maintenant au cantique 245, la deuxième strophe, en restant assis. Chers frères et sœurs, le roi Saül, le premier roi d'Israël, le premier Christ, le premier Messie, se trouve dans une situation qui n'est pas sans faire penser à la situation de toutes les personnes qui ne savent plus vraiment à quel saint se vouer. Ces personnes qui se retrouvent dans une situation critique, alors qu'elles ont vraiment tout essayé pour s'en sortir. Qu'il s'agisse d'une maladie, d'un problème sentimental, d'une tension au travail ou encore d'une série d'ennuis qui ont comme caractéristique souvent de voler en escadrille. Alors, ne sachant plus comment se sortir de la situation impossible dans laquelle il se trouve, Saül, en dernier recours, décide de s'en remettre au paranormal ou au surnaturel, comme vous voudrez, en allant voir une nécromancienne, une femme qui fait parler les morts, une femme qui établira le dialogue avec Dieu par l'intermédiaire du prophète Samuel, mort il y a quelque temps, et qui est donc symboliquement au séjour des morts. La pratique divinatoire, le fait de consulter un astrologue ou une nécromancienne, sont des choses régulièrement interdites dans la Bible. Ni le livre du Lévitique, au chapitre 20, ni le Deutéronome au chapitre 18 n'expliquent toutefois pourquoi il ne faut pas faire usage de ces pratiques. Mais ces textes nous enseignent que toute personne qui aura recours sera punie de mort. J'espère donc que, pour ne craindre aucun mal, la première chose que vous faites lorsque vous achetez un hebdomadaire dans lequel il y a de l'astrologie, c'est de déchirer la page pour ne pas craindre le jugement terrible et la condamnation éternelle. Je trouve qu'il est néanmoins assez fâcheux qu'aucune explication ne soit jamais donnée sur l'interdit de ces pratiques divinatoires ou de la nécromancie. Parce que le fait est que ce serait quand même bien pratique d'être autorisé d'y avoir recours. Si nous pouvions consulter en toute liberté les astrologues, les personnes qui lisent dans la main, qui font parler les morts, qui lisent dans le marc de café, etc., reconnaissez que cela nous épargnerait bien des problèmes. Et on n'aurait plus vraiment besoin de venir au culte le dimanche matin. Cela nous permettrait peut-être même d'avoir une vie idéale, puisque nous pourrions toujours faire les bons choix. Et justement, qu'est-ce qu'un bon choix ? Vous me direz que justement, c'est ce que nous aimerions bien savoir. Qu'on nous le dise une bonne fois pour toutes, quel est le bon choix que nous devons faire ? Quels sont les bons choix que nous devons faire ? Et c'est pour cela qu'il serait tout à fait avantageux pour nous de consulter des gens qui peuvent prédire l'avenir. Car évidemment, si on va consulter un mort, c'est pour qu'il nous dise ce qui va arriver. Selon l'idée populaire qu'une fois qu'on est mort, on sait tout sur tout, puisqu'on est dans le secret de Dieu. Et que bien sûr, Dieu sait tout sur tout. Les bons choix seraient donc ceux qui correspondent à ce qui va arriver. Et alors, du coup, quand on y réfléchit, le bon choix, cela revient à aimer la personne qu'on va aimer et qu'on va épouser peut-être. Cela revient à démissionner du travail qu'on ne va plus occuper. Cela revient à acheter la maison dans laquelle on va habiter finalement. Autrement dit, ce sont des choix qui n'en sont plus vraiment, puisqu'il s'agit de faire ce qu'on va faire. Cette petite gymnastique logique, un peu théorique, je vous l'accorde, correspond à ce que le rédacteur de ce passage biblique entreprend pour nous, lecteurs. Trop souvent, je pense, lorsqu'on a pris le temps de lire ce passage biblique, on a lu ce texte comme la démonstration qu'il est possible de faire revenir un mort pour s'entretenir avec lui et savoir ce qui va arriver. Et d'ailleurs, si vous prenez la peine de lire les pères de l'Église, ces théologiens chrétiens de l'Antiquité, disons jusqu'au 8e siècle, la question qui se pose à eux, c'est de savoir si c'est Dieu qui fait revenir Samuel du séjour des morts ou s'il s'agit de l'action d'un démon qui apparaîtrait sous les traits de Samuel. La question qui se pose n'est pas de savoir s'il est possible ou non de communiquer avec les morts. La question est de savoir qui est à l'origine de ce retour de Samuel auprès de Saül. Les pères de l'Église y ont cherché un enseignement sur ce qui se passe après la mort biologique, en se fondant sur la description de Samuel qui apparaît à la nécromancienne et qui parle à Saül. Les pères de l'Église, selon moi, en toute humilité, auraient été mieux inspirés de s'intéresser à ce que dit Samuel, qui surgit des ténèbres de la mort, et sur la relation qu'il entretient avec les différents personnages de cet épisode biblique. Cela les aurait conduits, je pense, sur l'intention du rédacteur qui n'est pas de justifier d'un purgatoire ou de confirmer l'immortalité de l'âme, si ce n'est des individus, et encore moins de dire qu'il est possible de communiquer avec les morts. Examinons le texte, car il n'y a que lui, finalement, qui mérite d'être interrogé ce matin. Tout d'abord, faisons une remarque qui n'est pas sans importance, même si elle est évidente, mais c'est une évidence qui ne nous saute pas toujours aux yeux. Ce qui est frappant, quand on regarde le détail du texte, c'est que nous pouvons remarquer que la voyante voit Samuel, mais qu'elle ne l'entend pas. Quant à Saül, il entend Samuel, mais il ne le voit pas. Et les deux serviteurs, eux, n'entendent ni ne voient Samuel. Autrement dit, et c'est là, à mon avis, l'intention du rédacteur. Le rédacteur explique que chacun reçoit en fonction de ses envies. La voyante voit, et Saül, qui voulait entendre, entend. Les serviteurs qui n'avaient besoin de rien, n'ont rien. Le rédacteur met en scène une situation classique de projection. Et pour le dire avec un rabbin, philosophe, Lévi ben Abraham de Villefranche, philosophe du XIIIe siècle, le rédacteur montre que la nécromancie est une production de l'imaginaire. Autrement dit, nous avons dans ce texte l'explication de la raison pour laquelle il ne faut pas faire appel à la nécromancie ou aux pratiques divinatoires. C'est parce que ça ne marche pas. C'est parce que ça ne fonctionne pas. Et qu'il faut arrêter de perdre son temps. Perdre son temps, c'est proprement mortel dans la vie. Et c'est pour cela que, d'une manière un petit peu radicale, il y a cette condamnation à mort. À force de perdre son temps, on perd sa vie. Néanmoins, la nécromancie n'est pas sans effet, mais ce n'est pas l'effet attendu. La nécromancie ici n'est pas sans effet, puisqu'elle permet de prendre conscience de ce que nous voulons, mais elle ne délivre aucune information qui viendrait de l'au-delà et qui nous permettrait de connaître l'avenir. Et pour bien en prendre conscience, il faut s'intéresser à ce que dit Samuel. Ce qui me frappe là aussi, c'est que Samuel, en fait, pour le lecteur du livre de Samuel, n'enseigne rien, ne révèle rien à Saül à ce moment précis. Il ne fait que lui répéter ce qu'il lui avait déjà dit de son vivant. Et d'ailleurs, vous l'avez fort bien entendu, Samuel dit « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est écarté de toi et qu'il est devenu ton adversaire ?» L'Éternel a pris ses dispositions comme il te l'a dit par mon intermédiaire. Tu savais déjà tout sur tout. Mais il ne l'avait pas intégré, comme on dit aujourd'hui. Il n'avait pas imprimé, comme on le dit encore aujourd'hui. Il n'en était pas conscient, pour le dire avec une formule peut-être plus psychanalytique. Au fond, Samuel ne fait que répéter à Saül ce qu'il lui avait déjà dit de son vivant. Il lui rappelle le rejet de Dieu, ce que Saül a expérimenté de façon radicale au début de ce chapitre, puisqu'il n'entend plus l'Éternel, et il en tire les conséquences. Il ne fera pas le poids face aux Philistins. Il succombera. Samuel n'apporte aucune information qu'ignore Saül à ce moment précis. Rien de neuf. Et ceci nous explique pourquoi il y a un interdit de la divination. C'est que ça ne marche pas. Il n'y a rien à en tirer. Au mieux, cela vous apprend ce que vous savez déjà, ce qui n'est pas rien, ce qui peut même être précieux. S'en remettre à des pratiques surnaturelles pour obtenir un savoir sur la suite de l'histoire est illusoire. Quand on s'y adonne, on n'apprend rien d'autre que ce que l'on sait déjà, parfois inconsciemment donc. La supercherie consiste à faire passer pour une information venant de l'au-delà un savoir que nous avons en nous et qui, émerge dans un contexte favorable, par exemple lorsqu'on se sent comme acculé, lorsqu'on est en situation de faire un point sur sa vie. J'ouvre une parenthèse pour vous rendre attentif à l'un des intérêts des textes bibliques, un intérêt que l'on ne soupçonne pas forcément. Mais il me semble que l'intérêt de ce passage biblique, comme dans bien d'autres cas, c'est de susciter chez nous un esprit scientifique. Ce que fait le texte biblique ici, c'est non pas d'être dans le registre de l'idéologie. Ça, c'est ce que fait le livre du Lévitique ou le livre du Deutéronome quand il dit « Vous serez punis à mort si vous pratiquez la divination, par exemple. » Parce qu'il n'y a aucune explication, alors que là, on est confronté au réel. C'est un retour d'expérience qui est décrypté par le rédacteur, qui ouvre les yeux sur l'illusion qui a été créée. Et le propre de l'illusion, c'est d'attirer le regard là où il y a la supercherie et non là où il y a le mécanisme. Mon cher collègue François Bergougnan, qui est un magicien à 16 heures, vous l'expliquerez bien mieux que cela. Il vous attire votre regard par ici pendant que c'est là que tout se passe. La vérité s'élabore en se confrontant au réel. C'est ce que fait le texte biblique. Non pas en nous berçant de belles idées, non pas en flattant notre penchant naturel, nous qui aimerions bien savoir comment ça se passe demain, après-demain. Non, le texte biblique nous ramène au réel. Pour autant, ce texte biblique ne se contente pas de montrer l'inutilité de la divination. Ce passage biblique va aussi orienter le regard du lecteur sur l'Évangile. Il ne s'agit pas simplement de déconstruire, il s'agit aussi d'édifier. Et, en fait, le rédacteur biblique, d'une manière assez subtile, je trouve, va nous dire qu'il y a du surnaturel, effectivement, dans ce texte et dans la vie, mais pas là où on l'imagine, bien entendu. Cela se trouve dans les tout derniers versets que nous avons entendus. Lorsque la femme va insister pour nourrir Saül, alors que celui-ci vient de défaillir, vient de s'écrouler, en réalisant qu'il va mourir dans quelque temps. Que fait la femme ? Elle va nourrir Saül, qui n'a pas mangé de toute la journée et de toute la nuit. Quel besoin avait-elle de nourrir un homme qui allait périr à la bataille le lendemain ? Quelle idée de tuer le veau gras ? N'est-ce pas tout simplement du gâchis ? Il m'apparaît que c'est là l'aspect véritablement surnaturel de ce passage biblique qui exprime où se cache la grâce divine. Nos âmes inquiètes et assoiffées de spectaculaire et de surnaturel sont prêtes à trouver Dieu dans la communication avec les morts parce qu'on se dit que Dieu est forcément dans quelque chose d'aussi extraordinaire que cela. Mais Dieu n'est pas dans le spectaculaire qui défie les lois de la biologie. Dieu est dans l'attitude de cette femme qui défie une économie qui déclare que nous ne valons plus rien dès lors que nous sommes au terme de notre vie, par exemple. Dès lors qu'on nous a annoncé notre licenciement, dès lors que nous sommes sur le départ, dès lors que nous avons été accusés de quelque chose. Cette femme est témoin de la grâce divine qui déclare que Saül, un quart d'heure avant sa mort, était encore vivant. Et bien vivant. Grâce aux bons soins de cette femme qui relève Saül, autrement dit qui le ressuscite, et qui le nourrit contre le cours naturel des choses, contre une économie qui considérerait que c'est du gâchis de remplir l'estomac d'un homme qui n'aura pas le temps de digérer ce qu'il va ingurgiter. Comme s'il n'était déjà plus vraiment un homme. La nécromancienne s'avère être redoutablement efficace comme agent de résurrection, comme apôtre de la vie. Peut-être d'ailleurs a-t-elle développé une sensibilité toute particulière pour le vivant à force de côtoyer la mort et le souvenir des défunts. Il n'est pas dit que l'ambiance mortelle dans laquelle elle baigne ne soit pas pour quelque chose dans ce talent qu'elle possède de rendre Saül à la vie, alors qu'il est comme déjà mort. Quelle erreur fondamentale de la part de Saül de mourir avant l'heure, de se résigner à son funeste destin. Le voilà qui sait qu'il va mourir, et le voilà entièrement aspiré par la mort qui étend son pouvoir sur lui en un instant. Saül, qui ne s'était pas alimenté de la journée, nourrissait en fait déjà son défaitisme devant les Philistins, devant la mort qu'il savait imminente. Cela signifie que la mort était devenue son véritable centre de gravité. C'est elle qui lui dictait chaque instant de sa vie. La mort était devenue une sorte de trou noir qui l'engloutissait inexorablement. Mais voici que la nécromancienne veille. Et elle désigne la vie qui reste tapie dans l'ombre. Cette ombre qui a, semble-t-il, recouvert intégralement Saül. Mais la nécromancienne repère ce petit reste de vie qui demeure et elle va le nourrir. Elle va l'entretenir pour laisser vivre la liberté de Saül de ne pas se soumettre à l'ordre des choses, de ne pas se soumettre à un destin dont il est encore le maître en vérité. Et c'est donc un homme libre, libre de mener la dernière bataille que Saül ira à la rencontre du lendemain. C'est lui qui choisira en toute liberté, en toute connaissance de cause. C'est lui qui choisira de donner sa vie à la cause la plus juste, préfigurant Jésus, qui choisira de donner sa vie pour ses amis, qui choisira de ne pas se renier et qui lui aussi d'ailleurs se nourrira la veille de sa mort, au lieu de se laisser dépérir. Au fond, ce qu'il y a de remarquable chez cette nécromancienne d'Aïn d'Or, c'est qu'elle nous en apprend plus sur la vie que ce que la mort a à nous enseigner de l'avenir. Et c'est là que réside l'Évangile. Dans la capacité des personnes qui sont confrontées à la limite de la vie, à nous révéler l'importance qu'il y a à s'occuper des vivants, à en prendre soin, sans jamais baisser les bras, sans jamais renoncer, sans jamais se dire que cela ne sert plus à rien. Elle est là la grâce, inconditionnelle, en toute vérité, dans toute sa splendeur. Il n'est pas question d'acharnement thérapeutique ici. Il est question d'une humanité qui n'est jamais prise en défaut, qui n'est jamais prise en défaut de reconnaître l'humanité qu'il y a chez l'autre, celui qui se tient là, devant moi, qui est peut-être réduit à pas grand-chose, mais dont l'humanité reste intacte, grâce à Dieu. C'est en ce sens que la nécromancienne est témoin que la vie l'emporte sur la mort. Et cela pourra faire dire à l'apôtre Paul plus tard, « Ô mort, où est ta victoire ? Où est ton aiguillon ?» face à l'admirable insolence de cette nécromancienne qui relève celui qui gisait entre tes entrailles. Ce que fait cette nécromancienne, c'est de vider la mort de sa substance en supprimant son pouvoir d'attraction. Non, ce n'est plus la mort qui nous attire. Non, ce n'est plus la mort qui dicte notre vie. Non, ce n'est plus la mort qui imprime quoi que ce soit à notre existence. Les morts eux-mêmes ne nous apprendront rien de plus. C'est la vie. C'est la vie qui est notre véritable horizon. C'est la vie voulue par Dieu, qui est le Dieu des vivants et non des morts, répètent inlassablement les rédacteurs bibliques. C'est le Dieu des vivants qui forge notre espérance, qui forge notre visée, qui est notre commune espérance. Amen. Puisqu'il convient de chercher les choses d'en haut et non celles d'en bas, d'être attiré par la vie plutôt que par la mort, chantons le cantique 403, les strophes 1 et 2 de ce cantique 403. Levons-nous pour chanter Dieu. Chantons même la troisième strophe du cantique 403. 1, 2, 3. Thank you. place pour partager quelques informations dans notre agenda. Mardi, il y aura, si vous le souhaitez, à Jacou, une étude biblique animée par Emeline Daudet, « Quand la Bible se raconte et s'interprète elle-même, le jeu de l'intertextualité au sein de la Bible ». Il y a jeudi l'atelier d'art liturgique qui se réunit en dépit du fait que c'est un jour férié pour celles et ceux qui voudraient découvrir l'art liturgique pictural, les icônes par exemple, eh bien c'est l'occasion et c'est à Jacou également. Dimanche prochain, il y a notre culte, il y a l'école du dimanche pour les enfants qui sont à l'école primaire et après le culte, il y aura un repas paroissial. Nous reprenons cette bonne pratique des repas paroissiaux, maintenant que cela est à nouveau possible dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Le principe est le suivant. Chacun vient avec un plat, une salade, une tarte, un dessert qui peut être partagé avec d'autres. Nous faisons un grand buffet et nous en profitons ainsi pour profiter du savoir culinaire des uns et des autres, et surtout, nous avons un moment de fraternité et de convivialité. Si vous n'avez pas l'occasion de cuisiner ou quoi que ce soit, vous êtes quand même le bienvenu. Si vous n'avez jamais participé à un tel repas, vous êtes le bienvenu. Vous pensez que ce n'est pas pour vous, vous êtes le bienvenu. Vous pensez que vous êtes indigne de participer à la joyeuse confrérie des parpaillots qui déjeunent ensemble le dimanche midi, vous êtes aussi le bienvenu. La grâce, la grâce, la grâce. Par contre, si vous ne venez pas, ça c'est péché. Il conviendrait que quelques personnes viennent à 9h30 pour préparer les tables, ce qui sera encore plus agréable une fois que le culte sera fini. C'est maintenant, précisément, le moment de l'offrande. Nous nous unissons dans la prière. Seigneur notre Dieu, ta bonté est si grande que tu nous permets d'invoquer ton nom et de te nommer comme Père, comme notre Créateur, notre Sauveur. Toi qui nous connais tous, toi qui nous aimes tous, Et c'est pourquoi nous pouvons en toute confiance déposer devant toi nos soucis afin que tu t'en préoccupes. Nous déposons devant toi notre inquiétude afin que tu l'apaises. Nous déposons devant toi nos espoirs et nos vœux afin que soit faite ta volonté et non la nôtre. Nous déposons devant toi nos pensées afin que tu les purifies. Nous déposons devant toi toute notre vie terrestre afin que tu la ressuscites, que tu la conduises à la vie éternelle. Nous faisons mention devant toi de tous ceux qui vivent dans cette ville, dans ce pays, sur notre terre. Sois avec celles et ceux qui sont exclus, qui souffrent, qui se sentent isolés. Rends-nous agents de cette grâce qui ressuscite le goût de vivre chez chacun. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et ceux qui, dans notre pays, dans tous les pays, sont responsables du droit, de l'ordre et de la paix. Rends-nous capables d'accompagner toutes les actions qui font se lever un nouveau jour sur la vie de celles et ceux qui peuplent notre terre. Comme l'a incarné le Christ Jésus, avec les mots duquel nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir la bénédiction au nom même de Dieu. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.